semaine prochaine.
Vous êtes sur 102.3 FM, mon petit ado, Radio Centre-Ville.
Bye, à la semaine prochaine. Merci pour votre attention.
Québec, de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Nous pouvons vous offrir des services d'emploi qui vous aideront dans vos démarches menant vers le marché du travail et faciliteront votre intégration. Vous trouverez de l'information sur ces services dans un bureau de Service Québec ou au québec.ca/service-aide-emploi. Un message du gouvernement du Québec.
Es el momento de decidir si usted quiere renovar su valle o no. Si usted recibe un aumento de renta, ¿sabe usted que no está obligado a aceptar? Infórmese sobre sus derechos. ¿Usted tiene la intención de mudarse? Comience a buscar cuanto antes. Las viviendas accesibles son escasas. Para saber más, consulte Montréal.ca. Un mensaje de la ville de Montréal.
C'est un moment pour décider si vous avez renouvelé bayou ou non. Si vous augmentez le loyer Kaila, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Informez-vous sur le droit que vous gagnez. Commencez à chercher si vous avez intention de déménager. Puis bonheur, puis bon. Pour joindre un logement à bon prix, c'est pas facile. Pour plus d'informations, consultez montréal.ca. C'est un message de la ville de Montréal.
La musique au créneau. Une nouvelle émission qui sera animée par Jean-Gardy Vincent sur les ondes de Radio Centre-Ville. Laissez votre passion musicale s'exprimer chaque samedi de 4h à 6h. À partir du 10 février, préparez-vous pour une immersion totale dans l'univers des notes et des rythmes. Restez branchés sur Radio Centre-Ville pour des moments musicaux inoubliables avec Jean-Gardy Vincent.
Une fois que vous avez sorti vos déchets et votre recyclage, vous ne vous préoccupez probablement plus de leur contenu. Mais saviez-vous qu'ils peuvent représenter une mine d'informations pour les arnaqueurs? En effet, ils peuvent y chercher vos numéros de carte de crédit, vos anciennes déclarations de revenus, des relevés bancaires ou même des copies de votre signature. Lorsqu'ils ont ces informations, ils peuvent les utiliser pour contracter des prêts frauduleux en votre nom ou essayer de réclamer des prestations gouvernementales. Il est donc essentiel de détruire tous vos documents contenant des renseignements confidentiels, comme votre numéro d'assurance sociale, de compte bancaire ou de carte de crédit. De plus, consultez régulièrement votre dossier de crédit, ainsi que vos relevés bancaires et de carte de crédit, afin d'y repérer toute activité suspecte. Vérifiez également vos renseignements personnels en vous connectant à Mon dossier sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Pour en savoir plus sur les façons de vous protéger contre les fraudes, consultez le site canada.ca/éviter les arnaques.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on elle. Produit le mettez sous étagelle, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Radio Centre-Ville, c'est ma radio, c'est ta radio,
c'est notre radio.
102.3 FM.
Auditeurs et auditrices, chers amis, bonjour, bienvenue à votre émission Finance et Culture. Nous prenons l'antenne avec 5 minutes de retard, Ali et moi, parce que nous avions été, jusqu'à il y a encore quelques secondes, pris dans la circulation du vendredi après-midi. Donc, il est 15h05. Et puis, nous allons démarrer immédiatement notre émission. Ça sera la dernière de la saison. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais permettez-moi d'abord de saluer le co-présentateur de cette émission, Ali Paknejad. Bonjour Ali.
Bonjour Hamid, il me fait plaisir de co-animer cette dernière émission de cette saison.
Absolument, moi aussi, le plaisir est toujours partagé. Et puis, nous saluons notre metteur en onde, comme d'habitude, Lisandre Duplay, qui nous accompagnera et qui nous a accompagnés tout au long de cette saison et qui nous accompagnera aujourd'hui aussi. Restez avec nous dans quelques secondes, on démarrera notre émission. Je pense, Ali, que nous avons repris notre souffle parce qu'il fallait quand même grimper une trentaine de marches pour venir dans le studio. Et là, ça nous a un peu fatigués. Mais bon, je pense qu'on est dans une bonne position maintenant, bonne situation, Ali. Donc, démarrons immédiatement.
La bonne nouvelle, c'est qu'avec la construction de nouveaux bâtiments de Radio Centre-Ville, on aura un ascenseur. Donc, on ne sera pas obligé de monter des...
Absolument, les marches, oui, surtout quand on est pressé, quand on est pris par les aléas du direct, comme c'est parfois le cas. Alors, donc, comme d'habitude, chers auditeurs et auditrices, nous allons nous intéresser pendant quelques petites minutes à notre, démarrage d'émission, c'est-à-dire notre quoi de neuf habituel. Alors, quoi de neuf, Ali ?
Ah, quoi de neuf ? Moi, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je ne sais pas avec laquelle que tu veux que je commence.
Bah, c'est toi qui choisis.
Je vais commencer avec la mauvaise et puis continuer avec la bonne. Ce que j'ai entendu, et c'est la communauté iranienne partout dans le monde sont très impliqués, et c'est la mauvaise nouvelle qu'une jeune chanteur en Iran a été condamnée à mort parce qu'il avait chanté des chansons.
Oui, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. J'espère que cette mobilisation va faire en sorte que cette condamnation soit supprimée, abolie, annulée.
Oui, c'est un chanteur qui chantait de musique rap et puis était très critique au gouvernement, surtout l'année dernière lorsqu'il y avait cette émeute partout dans le monde suite la mort de Mahsa Amini. Et demain, à 3h, à Square Philippe, il y aura une vigile, il y a une démonstration.
Une manifestation.
Voilà.
Très bien. Alors, la bonne nouvelle maintenant ?
Ah, la bonne nouvelle, je voudrais d'abord remercier les membres de Radio Centre-Ville l'année dernière pour m'avoir confié leur vote de confiance de faire partie du conseil d'administration. Alors, avec une grande fierté, je suis membre de conseil maintenant.
D'administration.
Et que j'espère que dans les 2 années à venir, je pourrai avoir un impact positif.
Oui, alors félicitations Ali. Alors je pense que nos éditeurs et auditrices nous envoient, je le sens, les félicitations les plus chaleureuses pour cette nomination. Et comme tu l'as dit, en espérant que tu pourras contribuer à l'amélioration et à l'augmentation de la qualité du centre-ville, dont les de Radio Centre-Ville, pardon, dont les émissions sont déjà de très bonne qualité, mais on pourrait encore augmenter ses qualités. Et de mon côté, en ce qui concerne les bonnes nouvelles, c'est qu'on a l'impression que l'été s'installe enfin, après une période incertaine où il y avait un mélange de pluie et de neige. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, alors que j'allais vers le collège pour mes cours, je voyais le mélange de neige et de pluie. Et donc, je me demandais quand enfin le printemps allait arriver et l'hiver allait partir. Aujourd'hui, on a un très, très, très bon beau soleil, beau ciel bleu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, la deuxième bonne nouvelle... c'est que, bien sûr, nous allons terminer aujourd'hui notre cinquième saison. Depuis 2 ans et demi, nous sommes en train de produire et présenter cette émission. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous reviendrons, bien sûr, pour la sixième saison. Donc, juste le temps de faire réécouter à nos auditeurs, auditrices en rediffusion tous les épisodes de cette cinquième saison. Et puis, on sera de retour avec, bien sûr, encore des émissions et des thématiques plus passionnantes. Comme d'habitude, chaque saison, on revient avec des nouveautés et avec plus de richesse, nous l'espérons en tous les cas.
Voilà, on a parlé de l'histoire et les historiens, et pourtant, il y a tellement des sujets qui restent encore aussi bien dans l'histoire et les historiens et les autres sujets, donc c'est ça. Ça devient un défi de pouvoir choisir un thème et puis en laissant un thème qu'on a quasiment même pas touché, presque.
Oui, on va essayer de faire une sorte de pont entre les différentes thématiques que nous sélectionnons pour nos auditeurs. C'est un genre de, en fait, gymnastique cérébrale entre des questions financières, des questions philosophiques de notre temps et des questions et des considérations littéraires. Donc, on ne veut pas tirailler, on ne veut pas mettre mal à l'aise nos auditeurs, auditrices, mais effectivement, écouter cette émission, ça veut dire aussi se préparer à des défis intellectuels, à se poser des questions, essayer d'en trouver les réponses. Et nous sommes fiers de pouvoir, depuis 2 ans et demi, présenter cette émission. Donc voilà, donc ça c'est notre dernière émission. Normalement, Ali, pour la dernière émission, le dernier épisode d'une saison, on fait une sorte de survol et rappel, n'est-ce pas? Pour voilà. La partie financière, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Pour la partie financière, je vais faire un survol, comme tu viens de dire, à différents thèmes qu'on avait abordés tout au cours de la saison, aussi bien les saisons précédentes. Juste rappeler que la planification financière personnelle, ça consiste plus ou moins à 5 étapes. D'abord, c'est à propos de faire un bilan, faire un budget en ce qui concerne les impôts. Donc, la première étape, c'est vraiment de voir combien on gagne, combien on dépense. Donc, de faire une balance entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, c'est plus ou moins de faire un budget. Et deuxièmement, d'assurer qu'on a suffisamment de protection, parce qu'on ne sait jamais, la vie est pleine de surprises, ça pourrait être des maladies, des événements plus malheureux, le décès prématuré. Donc, assurer qu'on a suffisamment de l'assurance, de protection, donc dans les cas des événements imprévus, on pourrait toujours continuer à avoir le revenu, soit dans le cadre d'invalidité, maladie ou bien le décès prématuré.
Oui, pour bien philosopher et s'intéresser à la littérature, il faut d'abord s'assurer que l'état financier de la vie, bien sûr, va bien. Et à partir de là, on peut tranquillement se pencher, se concentrer sur des questions philosophiques et littéraires qui nous intéressent, Ali et moi.
Voilà, la santé financière va main à main dans la santé culturelle et intellectuelle.
Absolument. Donc, je rappelle que Ali Paghnejad est conseiller en sécurité financière depuis, ce que je vais dire depuis.
Depuis millénaire dernière.
Depuis de nombreuses années, et puis courtier hypothécaire. Et parallèlement, comme on peut le sentir, on peut le deviner même sans le savoir, il a étudié la philosophie à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Et je l'ai accompagné pendant une partie des cours de philosophie où on allait assister pour apprendre des choses nouvelles, philosophiquement intéressantes, des cours du professeur Jean Grondin de l'Université de Montréal, qu'on salue depuis ce studio s'il nous écoute.
Oui, on va espérer qu'à un moment donné, un jour, on devrait lui inviter pour une
on l'invitera
séance pour pouvoir une discussion très enrichissante.
Absolument. Donc, revenons aux rappels, et au survol que tu vas faire sur l'état financier.
Donc, on avait parlé du deuxième qui était la protection.
C'est ça.
Alors, si on rentre dans la troisième partie, c'est vraiment la partie d'investissement, d'assurer qu'on a une portefeuille bien diversifié, qui sera investi dans différents véhicules financiers. Donc, cet aspect est aussi important en ce qui concerne l'RER, le CELI, tous ces véhicules fiscal devrait avoir un aspect financier, investissement, donc d'assurer que les investissements sont bien diversifiés et faire attention aux coûts qui sont attachés aux gestions des fonds. Donc ce sont des choses importantes pour avoir un portefeuille bien géré, bien investi.
Oui, donc et ensuite?
Oui, le quatrième, c'est planification de retraite. C'est vraiment différentes étapes de la vie. On commence au début, la sécurité, investissement, et on rentre à la retraite. Et donc, de savoir de quel montant qu'on va recevoir des fonds gouvernementaux, des plans de pension gouvernementale, soit le régime de rente du Québec, si on est Québec, ou la pension du Canada. Et bien d'autres comme pension de vieillesse, qui est basée sur le nombre d'années qu'on a vécu au Canada. Et d'autres plans gouvernementaux comme supplément de revenus garantis pour les gens qui n'ont pas d'autres revenus et que le revenu est plus bas que certains seuils déterminés par le gouvernement. Donc ce sont les parties gouvernementales et qu'il y a d'autres comme les plans de pension de compagnie, s'il y en a, si quelqu'un a un plan de pension de collectif de leur milieu de travail et finalement les plans de pension privés comme les REER. Des fois, les plans de pension comme les assurances qui ont des fonds à l'intérieur ou d'autres investissements qu'ils ont fait. Donc, assurer qu'on aura suffisamment de revenus de retraite, qui était la quatrième étape.
Alors, pour ce qui concerne le revenu de la retraite, donc REER, est-ce qu'on peut savoir, je pense que je t'avais posé la question une fois, je pense savoir aussi connaître la réponse, mais j'aimerais partager cette question à nouveau et puis là, ta réponse. À quel pourcentage s'élève le plafond de l'investissement dans le programme REER?
REER, c'est 18% de son revenu déclaré sur un maximum de, je crois que pour cette année, c'est 31 000. Donc le maximum, c'est 31 000
oui.
Ou 18%.
18%
donc, celui inférieur, soit 18% ou maximum.
C'est-à-dire, par exemple, cette année, on investit 18% de revenu. L'année prochaine, un
encore
18%.
Oui. Donc, et le 18%, c'est basé sur le revenu de l'année
annuel,
précédente.
L'année précédente, bien entendu.
Donc, pour 2023, par exemple, 18% de revenu de 2022. À chaque année, 18% de l'année précédente.
Donc, REER est un programme de régime de retraite très populaire, j'imagine, parce que on en parle beaucoup.
Donc. Oui, sûrement, surtout pour les gens qui ont un revenu déclaré supérieur, plus élevé, parce que
oui.
Plus on paye de l'impôt, plus a de sens de contribuer dans le REER. Donc, si les gens qui ne déclarent pas beaucoup, donc ça n'aura pas tellement de sens de contribuer dans son REER parce qu'il n'y aura pas beaucoup de remboursement.
Oui.
Donc, plus élevé il est le revenu, plus il est profitable, disons.
Effectivement.
Investir dans un REER.
Oui, ça va déduire ce montant du montant total de la déclaration des revenus
voilà.
pour réduire le montant de taxes qu'on paye.
Voilà.
Donc,
et la dernière élément, c'est planification successorale qui est aussi très importante. Donc, le passage des biens d'un individu à la génération prochaine, de parents aux enfants. Donc, ça prend une certaine planification à l'avance, sinon il y aura beaucoup d'impôts à payer normalement si on a des investissements derrière ou bien d'investissements dans les immobiliers. Tous les gains sont imposables.
Très
et
bien.
Surtout le gain en capital qui a été augmenté la semaine dernière par le budget fédéral. Donc, la planification successorale est aussi importante.
Alors, la bonne nouvelle, Ali, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, nos auditeurs et auditrices vont réécouter, vont avoir l'occasion de réécouter tous les 10 épisodes qu'on a fait pour cette 5e saison. Donc, je les invite pour plus d'approfondissement et d'informations. Écoutez les rediffusions qui auront lieu à partir du vendredi prochain. Et donc, je rappelle que Ali Bagnija est conseiller en sécurité financière et en courtier hypothécaire. Il a étudié aussi la philosophie à l'Université de l'UQAM. Je vous donne son numéro de téléphone, 514-296-9071. 514-296-9071. N'hésitez pas à l'appeler, il vous donnera des conseils avisés et personnalisés, donc n'hésitez pas. Chanson de Graham Allwright qui est décédé il y a 4 ans à l'âge de 93 ans, longue vie, chanteur franco-néo-zélandais, marié à une Française et vivant en France. Donc on entendait le petit accent néo-zélandais qu'il avait, mais il maîtrisait parfaitement la langue française et puis il chantait en français. Donc, alors cette chanson évoque les retrouvailles, mais en même temps les séparations. Alors Ali, donc comme je disais au début de l'émission, que ça va être notre dernier épisode de cette cinquième saison. Je voulais simplement dire que il faut que nous en allions, mais on sera pas loin. Donc on reviendra dans quelques semaines, quelques mois, donc pour reprendre, pour commencer une nouvelle saison. Mais cette saison 5, Ali, a été marquée par une thématique, comme tu l'as signalé tout à l'heure, une thématique vaste, multifacette et extrêmement passionnante, l'histoire et les historiens. Donc on a eu l'occasion d'aborder un certain nombre des aspects multiples, des aspects complexes de cette thématique. Et donc pour ce dernier épisode, on va effectivement faire encore un petit survol et rappel rapide des choses, des notions dont on a parlé, en attendant que nos auditeurs soit encouragé à écouter ou réécouter les émissions à partir de la semaine prochaine.
Voilà, on a abordé certains sujets. C'est sûr que ce n'est pas un cours magistral sur l'histoire. C'est plutôt ouvrir certaines, peut-être,
curiosités.
Débats, certaines curiosités, certains aspects de la philosophie de l'histoire, de son importance, et de peut-être donner la motivation de la poursuivre.
Absolument. Donc, je pense que d'abord, peut-être Ali, tu pourras nous dire quels étaient les principaux historiens dont on a parlé cette semaine.
Oui, on a abordé certaines écoles, en même temps certains historiens, dépendamment de nos intérêts, et qu'on avait au début parlé de certaines approches à propos de l'histoire, et avant tout, on a parlé pourquoi l'histoire, pourquoi on utilise, c'est quoi le fonctionnement de l'histoire, et différentes écoles qui voyaient différents objectifs pour l'étude historique. Alors, on a parlé du mot historicisme et le sens qu'il a eu. On a parlé de trois sens de historicisme, et d'ailleurs, le critique certaines ont adressé à différentes écoles historicistes. Et donc, on a déjà parlé de l'histoire en tant qu'un principe, en tant qu'une discipline où on étudie pour comprendre le présent plutôt que prédire ou prévenir l'avenir.
Oui, alors la philosophie de l'histoire aussi, c'est pour trouver une logique structurelle sur les événements historiques pour pouvoir prévenir les autres événements semblables, ou alors savoir trouver un sens à tout cela. Donc c'est aussi le travail des historiens de pouvoir interpréter les événements et savoir pourquoi tel ou tel événement dans tel ou tel contexte peut avoir lieu. Ce sont ces écoles de pensée effectivement qui vont proposer des théories et des manières d'interpréter l'histoire.
Voilà, et il y en a certaines écoles qui pensaient s'il y a des possibilités d'appliquer les méthodes de sciences de la nature aux sciences humaines comme histoire. Est-ce qu'on pourrait étudier l'histoire et avoir les mêmes attentes des études historiques, par exemple, qu'on aura, par exemple, en étudiant la physique ou la chimie ou la science de la nature? Donc, il y a deux écoles complètement diamétralement opposées. L'un qui pense qu'il est possible de pouvoir appliquer les mêmes méthodes que la science de la nature, et il y en a d'autres qui disent que non, les sciences humaines, ils devraient avoir ses propres méthodes, et l'objectif des études historiques devrait être autre que ce qu'ils cherchent, la science de la nature. Donc si la science de la nature, ultimement ils cherchent à contrôler la nature et de se terminer avec une sorte de technologie, donc la science historique, science humaine, l'objectif c'est de la compréhension, c'est de comprendre les sociétés, de comprendre le passé, de comprendre pourquoi nous sommes là.
Alors c'est pour ça que en fait on essaye, certains penseurs ont essayé de donner la même on va dire la même rigueur disciplinaire à l'histoire ou au sens en sciences humaines de manière générale. C'était un mouvement bien entendu pour dire que si les sciences naturelles, si les sciences dures, on les appelle aussi les sciences dures comme la physique, la chimie, la biologie et tout ça, ont des lois intrinsèques qui nous permettent de d'interpréter différentes thématiques qu'elle aborde, l'histoire ou les sciences humaines aussi ont des structures identifiables et extrêmement rigoureuses qu'on peut identifier et de, au même titre que les sciences dures, on peut les interpréter, on peut les appliquer. Et puis, entre autres, la philosophie, la littérature, etc., les mouvements structuralistes des années 60-70 en font partie.
Et surtout, le succès que la science de la nature a eu pour expliquer, aussi bien prédire Absolument. Les événements matériels, si tu veux, ça, c'est peut-être cet aspect qui a plutôt fait à certaines penser que la science humaine, c'est le cousin plus pauvre des sciences, si on le compare avec la science de la nature. Et pourtant, certains d'autres qui pensaient que non, l'objectif de science humaine, c'est complètement autre chose. Leur méthode, ça ne devrait pas être le même. Alors, l'objectif de la science, de la nature aussi, je veux dire, l'histoire n'est pas le même objectif que science de nature.
Et de là, la méthodologie historique, les méthodes historiennes ou historiques pour interpréter l'histoire ne relève pas de la même vision du monde. Comme tu l'as dit, effectivement, les sciences naturelles, les sciences expérimentales, les sciences empiriques ont contribué à l'amélioration de la vie matérielle, sciences médicales, transport, etc. On peut très bien donner beaucoup d'exemples. Et ce succès, comme tu dis, cet impact mondial, lui a donné une sorte d'aura à cette science naturelle. Et puis, on a voulu imiter sa méthode et aller considérer que les sciences humaines doivent exactement se comporter comme les sciences exactes ou les sciences dures.
Oui, c'est sûr que même dans l'histoire, on ne peut pas faire complètement abstraction de sciences de la nature. C'est sûr que de plus, ce science avance, ça permet une étude plus précise du passé, donc de comprendre, par exemple, d'avoir des preuves peut-être qui seront plus vérifiables par les méthodes scientifiques pour étudier le passé. Mais l'objectif de prévenir ou prédire l'avenir, ce que, par exemple, fait de la science de la nature, ce n'est pas parmi les objectifs des historiens. On a parlé d'autres historiens aussi qui pensaient que l'objectif, qu'est-ce que ça devrait être l'objectif d'études historiques, parce qu'on a parlé de Ferdinand Braudel et mm-hmm. École des Annales, mm-hmm. on a parlé de Spengler et Toynbee, mm-hmm. et que aussi bien dernièrement, on a parlé la semaine dernière, probablement pas autant qu'on voulait, on a parlé de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, oui. que chacun de ces penseurs avait leur propre approche en ce qui concerne l'étude de l'histoire.
Et puis on a parlé aussi de Popper.
On a parlé de Popper sûrement en tant que critique de historicisme. Oui, lui aussi philosophe de la science mm-hmm. et qui était très critique à cette approche historiciste qui pense que le cours de l'histoire pourrait être prévisible,
donc, interprétable et puis
interprétable c'est sûr
mais prévisible aussi, c'est comme la météo par exemple, ouais. quand on peut prédire la température et puis les événements météorologiques, de la même manière il faut pouvoir prédire l'histoire, n'est-ce pas, les événements historiques, c'est ça,
oui.
Ils essayent d'aller dans ce sens-là, mais en fait l'expérience montre que l'histoire n'est pas aussi domptable, aussi contrôlable et aussi interprétable, n'est-ce pas?
Donc, l'expérience. Il n'est pas où il est.
C'est-à-dire, on ne sait pas où elle est, et tout dépend. Et puis surtout, l'interprétation reste ouverte. Certaines personnes
Absolument. Oui.
vont interpréter tel ou tel événement comme un événement néfaste. D'autres vont considérer que non, ça a été un événement qui a contribué à l'éclosion des cycles civilisationnels, etc.
Il y en a d'ailleurs certains historiens, je veux dire philosophes de l'histoire. Il y en a un qui s'appelle, le nom m'échappe maintenant. Mmh. Il a parlé de deux genres de questions, les questions épais et les questions narrow, c'est-à-dire
maigres.
Maigres, mmh. oui. Donc il dit que lorsqu'on passe du passé, par exemple, on se demande, par exemple, quelle année que Christophe Colomb a passé de l'Europe pour venir aux États-Unis. Mm-hmm. Ce sont les questions qu'on pourrait trouver plus ou moins des réponses très directes.
Oui,
donc, il n'y aura pas beaucoup d'espace pour l'interprétation. Mais lorsqu'on demande pourquoi il est venu, ou lorsqu'on demande quelle était la conséquence de ce voyage, ce sont les questions épais. Donc, d'un coup, c'est l'interprétation. Il y a tout un mélange de facteurs qui viennent qu'on ne pourrait pas trouver une réponse. Il y a une multitude de réponses. Donc, c'est à ce moment-là que l'interprétation devient très importante dans l'étude historique.
Et c'est pour ça que nous invitons chaleureusement nos auditeurs et auditrices d'écouter ou réécouter les rediffusions des épisodes de cette saison portant sur l'histoire, parce que nous avons abordé toutes ces questions de manière détaillée. Ceux et celles qui ont déjà écouté ces émissions, je pense qu'ils seront aussi bien servis en les réécoutant, et ceux et celles qui n'ont pas écouté, eh bien, on les invite à les écouter et puis à rester avec nous dans ces rediffusions jusqu'à la nouvelle saison, la saison 6.
Je n'ai pas parfait, je ne l'ai pas choisi. Un jour on m'a dit envole-toi, vas-y. Tu tomberas sur le bitume, mais tu prendras l'habitude. Tu y laisseras quelques plumes, mais c'est ta vie. Elle fera des promesses qu'elle ne tiendra pas. Elle fera des prouesses aussi quelquefois. Tu ne pourras pas la connaître, elle est faite de peut-être. Mais elle finit par te prendre dans ses bras. Elle est belle un jour sur deux.
Cette jeune chanteuse française aux racines andalouses, Florina, avec ce titre qui a eu beaucoup de succès, Va, va, vie. Et donc, nous arrivons à notre dernière partie de ce dernier épisode de la saison 5 portant sur la littérature.
Oui, et tout au cours de cette saison, Amit, tu nous as parlé des lauréats et des lauréates de prix Nobel en littérature. Alors, c'est toute une tâche de pouvoir nous donner un résumé, faire un survol de toutes ces émissions, que chacun était très enrichissante. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine?
Oui, alors, bien sûr, on dit toujours que la littérature, c'est l'art de bien parler, de bien écrire, de bien utiliser les mots. Mais une littérature réussie, c'est une littérature qui dit beaucoup de choses avec peu de mots. Donc, résumons les choses que nous avons dites pendant cette saison. D'abord, on s'est basé sur quelques interrogations fondamentales, Ali, dans cette émission, dans la partie littérature. C'est quelques questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que la littérature ? On peut réfléchir sur cette question. Deuxième question, quelles sont les caractéristiques d'un texte littéraire ? Quelles sont les différences entre un texte normal, une prose normale ou une poésie, on va dire, normale, et puis quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle littéraire ou littérature. Pourquoi, troisième question, un écrivain ou une écrivaine a besoin d'écrire? D'où vient ce besoin et d'où vient cette capacité de vouloir s'exprimer par l'écriture? Quatrième question, pourquoi avons-nous besoin de la littérature? Autrement dit, pourquoi nous avons besoin de la lecture des livres et des textes littéraires. Donc, c'est pour répondre à ce genre de questions que nous avons effectivement, cette saison, nous nous sommes penchés sur, effectivement, la littérature mondiale. Et pour pouvoir donner le goût de l'exploration de cette littérature, nous nous sommes basés sur un certain nombre de noms connus et inconnus des lauréats et de lauréates du prix Nobel de littérature instauré depuis 1901 et parmi lesquels nous avons seulement 17 écrivaines ou 17 femmes de lettres et nous avons essayé de les énumérer, de les présenter et de parler de leurs œuvres. Et de ce fait, on voit qu'il y a un champ effectivement qui s'ouvre qu'on appelle la littérature comparée. Or, dans la littérature comparée, ce qu'on fait, on compare les thématiques, les notions, les regards, les manières d'être de différentes cultures, différentes littératures. Et moi-même, personnellement, j'ai eu l'occasion pendant mes études, notamment à partir du doctorat, de me pencher sur la littérature eurasiatique. Ce qu'on appelle eurasiatique, c'est la littérature entre l'Europe et l'Asie. En ce qui concerne l'Europe, moi j'ai fait mes études sur la littérature française. Et puis en Asie, par rapport à l'Asie, c'est plutôt le Japon. Et là, Ali, on trouve ce qu'on... En tout cas, moi j'ai expérimenté ça. Ce qu'on appelle les structures anthropologiques de l'imaginaire, c'est le titre d'un livre très important paru dans les années, début des années 60, je pense en 1963, de Gilbert Durand, théoricien de l'imaginaire littéraire. Il parle de ce qu'on appelle le trajet anthropologique. Et par trajet anthropologique, il entend une sorte de trajet qui traverse différents continents de notre Terre, de notre planète, et sur lequel on retrouve les mêmes thématiques, les mêmes éléments, pratiquement les mêmes regards et les mêmes intérêts. Par exemple, tout ce qui relève de la mythologie, chaque culture a une mythologie propre, on a une sorte de littérature folklorique, on a ce qu'on appelle les mythèmes. Bref, tout ça va constituer ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire l'ensemble des représentations culturelles qui se cristallisent dans les textes écrits et qui restent des chefs-d'œuvre. À titre d'exemple, si on va par exemple au Moyen-Orient, quelqu'un comme Ferdowsi, après plus de 1000 ans, sa poésie était toujours aussi admirée que les structures, même si on a des réserves sur un certain nombre de thématiques. Après 1000 ans, on peut reconsidérer tout ça. Ou alors, quand on regarde le Japon, par exemple, l'ensemble de cet ouvrage mythologique qui s'appelle Kojiki, là aussi, ça va nous inviter à réfléchir Homère, avec Shakespeare. Enfin, je ne veux pas donner juste une liste écourtée pour dire tout ça, effectivement, fait partie de, du patrimoine mondial de littérature.
Tantôt, tu as évoqué quelques questions très importantes. Je vais poser plutôt une, ce que tu viens de parler. Qu'est-ce qu'est la littérature? Qu'est-ce qu'il fait que, par exemple, un texte normal n'est pas considéré comme la littérature? Ou peut-être une question encore plus pertinente d'aujourd'hui, on demande des fois à ChatGPT de nous écrire un texte qui est super beau, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça pourrait faire partie de la littérature?
Alors d'abord, un texte littéraire est un texte qui vise un certain esthétisme, c'est-à-dire on emploie les mots pour produire un texte beau avant tout. Mais cette beauté ne suffit pas pour qualifier un texte de littéraire. Il faut, encore faut-il qu'il y ait un sens, qu'il y ait une sorte de profondeur dans ce texte. Et quand on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle ou de ce qui est considéré comme littérature, que ce soit les lauréats et les lauréates du prix Nobel actuel ou les livres anciens qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre mondiaux de littérature, on voit effectivement ces deux éléments, c'est-à-dire la profondeur et puis l'esthétique. L'esthétisme et l'esthétique de cette littérature est très très important. Mais en ce qui concerne les outils modernes qui produisent des textes comme par exemple l'intelligence artificielle, dans cette intelligence artificielle, bien sûr, artificiellement, on peut reproduire, comme son nom l'indique, certains de ces éléments esthétiques et puis une certaine profondeur. Mais il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle puise dans ce patrimoine mondial déjà existant et que la création, c'est une sorte de recréation, c'est-à-dire on utilise déjà ce qui existe. De la même manière, les lauréates et les lauréats du prix Nobel de littérature que nous avons abordé, entre autres Annie Ernaux de France, Naguib Mahfouz d'Égypte, Olga Tokarczuk de Pologne, Orhan Pamuk de Turquie et Alice Munro de Canada, abordent différents types de littérature. Et peut-être que si on posait la question à ChatGPT, comme tu dis, il aura du mal à les départager ou alors à écrire comme eux. Mais la bonne nouvelle que je voulais donner, parce qu'il ne me reste que deux minutes, c'est que pour la sixième saison, je suis en train de préparer dès maintenant une autre thématique, et ça va être les chefs-d'œuvre mondiaux de la littérature. C'est-à-dire cette fois-ci, au lieu de présenter les écrivains, on ira à la rencontre directe des textes de manière un peu plus intime, et puis bien sûr on présentera leurs lecteurs, leurs auteurs bien sûr, mais c'est avant tout les textes qui seront mis en valeur. Et j'en profite, avant de te laisser la parole pour finir cette partie, de lancer encore notre appel à la direction de la création d'un prix littéraire de Radio Centre-Ville de Montréal, parce que je pense qu'après 5 saisons, notre belle radio mérite de créer un tel prix littéraire. Et puis nous allons, toi et moi, Ellie, endosser et puis prendre la responsabilité de ce prix.
Alors, je te demandais si tu penses qu'on pourrait envisager qu'à un moment donné, ChatGPT sera un récipiendaire de prix de Radio Centre-Ville ou bien...
Oui, on verra. tu sais, bon, l'intelligence artificielle avance et le monde avec. On va attendre pour trouver la réponse à ta question.
Merci, Amit. Et j'attends impatiemment pour la saison prochaine pour entendre tes commentaires et ton analyse de la littérature mondiale, de rappeler à nos auditeurs et auditrices, Amit Nejad, il est professeur de la langue et la littérature française à Collège La Salle. Il fait aussi des études approfondies à l'Université de Montréal sur la religion.
Deuxième génération d'immigrants, êtes-vous là? Où êtes-vous? Terre d'origine ou terre d'accueil? Edna Rencontre vous invite à chaque samedi de 21h à 22h à identifier avec ses invités les dualités conscientes ou inconscientes qui habitent la deuxième génération d'immigrants. C'est une rencontre de soi et des autres pour repousser nos limites, découvrir de nouveaux horizons et voir autrement. Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour triompher.
L'émission Conversa Fiada com Elizabeth Martins Carreiro
e Paulo Lourenço.
Convidados, discos pedidos, cultura
e a rúbrica sobre queijo e vinho.
Todas as sextas-feiras,
das 18 às 20 horas,
na Rádio Centre-Ville 102.3 FM.
Chers auditeurs et fidèles amis de Radio Centre-Ville, je suis Muriel. Je suis ravie de vous inviter à vous joindre à moi pour une toute nouvelle émission intitulée « Société sans frontières ». À partir du 13 janvier 2024, retrouvez-moi chaque samedi de 20h à 21h. Mon objectif est clair, éduquer, informer, articuler, harmoniser et surtout fournir les ressources nécessaires pour assurer le succès de votre parcours au sein de notre société. Société sans frontières, c'est une plateforme pour votre épanouissement social, personnel, familial et professionnel. Alors, ensemble, créons une société sans frontières où chacun pourra trouver les clés de sa réussite.
Bla,
bla, bla.
Causerie de tout
et de rien.
Cette idée a vu le jour il y a 3 ans, alors que, confinés à la maison, COVID oblige, Natacha et moi discutions sur l'application WhatsApp, matin, midi et soir.
Nous voulions créer un événement live hebdomadaire avec la même dynamique qu'on avait au quotidien. Mm-hmm. Des interactions amicales et amusantes.
Après un an de pur plaisir passé en votre compagnie sur les réseaux sociaux, c'est avec grande fierté que nous vous présentons enfin Blabla!
Yeah! Sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM, tous les samedis matins à 9h. Au plaisir de se retrouver.
Nous sommes Blabla, tu es Blabla. À tout de suite!